Au quotidien, avec Hélène Denis.
juin 2025. Bon mercredi à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en forme malgré la chaleur et malgré les mauvaises nouvelles aussi. Je pense entre autres à la disparition de la fillette Claire Bell. Ça jette une ombre sur notre cœur. On espère le mieux. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
On a de la visite rare en studio. Daniel Lachance is in the building.
Ben oui, bonjour.
Bonjour Daniel, ça nous fait plaisir de vous accueillir.
Moi aussi.
Pour votre dernière avant les vacances.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous annoncer votre retour officiel à la rentrée?
ça dépend du transport en commun.
Oui, c'est ça. J'aime pas faire des promesses que je suis pas certain de pouvoir tenir.
Ouais.
Il y a tellement d'impondérables.
Bon, alors Daniel, on va vous prendre quand vous y serez, comme aujourd'hui.
Comme
on
ça.
Va en profiter. Serge Bradet, fidèle au poste.
Bonjour.
Salut
oui,
Serge.
Au poste.
Et Isabelle Falardeau qui est avec nous, mais à distance. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle. Est-ce que vous avez pris votre première gorgée de café?
Non, pas encore, non, malheureusement.
Bon, ça viendra.
Oui, c'est ça. J'essaie d'arrêter.
Ah, vous essayez d'arrêter? C'est pas facile, hein? Moi, je n'essaie même pas d'arrêter.
Ben moi, le matin,
comme une
j'arrête
drogue.
Après une tasse.
Vous regrettez?
Non, j'arrête
okay,
après
vous arrêtez,
une tasse,
vous
mais
êtes
le
capable
lendemain,
d'arrêter?
Je recommence.
C'est ça, oui, ça fait comme ça.
Bon, une tasse par jour, c'est quand même bien.
C'est même très raisonnable,
oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Isabelle, commencez donc.
Bien, comme vous l'avez mentionné, il fait très chaud. Et moi, quand il fait très chaud, j'ai pas envie d'ouvrir d'allumer les ronds. J'ai envie qu'il fasse froid dans la maison. Alors, j'ai trouvé des suggestions de recettes sans cuisson pour justement les journées comme ça où il fait trop chaud pour cuisiner.
Bonne idée. Merci. Serge?
Oui, dans ma revue que je garde en réserve parce qu'elle est presque inépuisable, c'est Historia de quand ça date.
Oui.
Alors, il y avait deux articles sur les origines du CD et du DVD et puis un autre sur le GPS.
D'accord. Donc, ce sont les origines, donc c'est intemporel.
C'est intemporel.
Oui, parce que le magazine, le numéro
2012,
est de...
Mais évidemment, 2012, les chiffres que je vais donner dans ça, là, c'est il faudrait peut-être être
en
conscient.
En prendre et en laisser?
Ça veut dire que ça date de 2012, alors...
On a un spécialiste musique
ben,
c'est
ça,
pour
justement,
avoir,
ouais, on va
apporter
peut-être...
Des... D'ailleurs, de... son éclairage.
Il y a un groupe qui est nommé, que moi, il ne me dit absolument rien. Daniel va nous le dire.
Comme qui?
Oui.
Lequel? Pink Floyd?
Non, c'est le
On ne le connaît pas. Moi, je connais deux, mais pas le.
Ouais, ça, c'est
oui.
Ça,
oui. Bon, bien, en tout cas,
oui,
vous nous en parlerez plus tard.
Le temps de le trouver.
Et puis, Daniel, quel beau sujet à l'approche de la Saint-Jean, de la fête nationale.
Oui, j'ai pensé vous parler aujourd'hui d'une chanson qui a 50 ans, là, cette année. On verra tantôt pour la date, là.
Qui est née en 75.
Qui est née en 75 et puis qui a une chanson qui est devenue vraiment un hymne national du Québec, là. Donc, je pense que j'ai même pas besoin de la nommer. Mais on va en parler tantôt. Je vais parler de tout le contexte autour de cette chanson-là. Ce concert-là avait eu... un impact assez important aussi.
Ah oui. Donc, est-ce que vous étiez, vous, sur la montagne?
Non, je n'étais pas là.
Et vous auriez pu?
J'aurais pu, mais je me souviens pas pourquoi. Je pense que
vous avez manqué votre autobus?
Je me demande si à l'époque... en tout cas, on en parlera tantôt.
OK.
Là, mais les fêtes de la Saint-Jean, ça a bien changé. Hein?
Oui, ça a bien changé.
On en parle.
Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. Et puis, nous aurons aussi la chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte qui a vu trois films, Partir un jour, c'est le film qui a ouvert le Festival de Cannes de cette année, Cookie à l'infini, un documentaire, et Les Barbares, le plus récent film de l'actrice qui joue dans son film. Et elle est aussi réalisatrice, une actrice que j'aime beaucoup, elle s'appelle Julie Delpy. Il a 83 ans aujourd'hui. De qui je parle?
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why is she
yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Mm-hmm. Yesterday, bien sûr, The Beatles.
À la une du Devoir, fillette de 3 ans disparue, on est là avec les bras croisés. Des citoyens inquiets veulent aider les policiers à retrouver la petite Claire, 3 ans, portée disparue. On n'a que ça dans la tête et on peut rien faire. Comme plusieurs autres citoyens, Sandra Constantino s'est présentée mardi au poste de commandement mobile de la Sûreté du Québec à Coteau-du-Lac, en Montérégie, pour aider à retrouver la petite Claire Belle, 3 ans. Les policiers ont toutefois décliné son aide. On est en recherche d'indices, a expliqué au Devoir l'agent Jean-Raphaël Drolet de la SQ. Seuls les policiers et les bénévoles dûment formés pour ce type de recherche participent au battu. Pour l'instant, les policiers sollicitent surtout le public pour tenter de reconstituer les déplacements effectués par la mère entre le moment où elle a quitté la salle et celui où elle s'est présentée à Coteau-du-Lac. Elle était au volant d'un Ford Escape gris 2007 immatriculé K50FVE, sur lequel est apposé un autocollant « Baby on board ». Si les gens ont des informations, qu'ils n'hésitent pas à nous les transmettre. Pour contribuer aux recherches comme citoyens, il faut être dûment formé par l'AQBRS, qui est l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Maintenant, autre titre à la une du Devoir. Aucun signe d'apaisement entre l'Iran et Israël. 2 jours sont passés depuis l'impact d'un missile iranien dans la ville arabe de Tamra, dans le nord d'Israël, qui a tué 4 femmes d'une même famille. Mais les habitants sont encore sous le choc. Des sirènes d'alerte anti-aérienne ont encore brièvement retenti mardi soir dans cette région, mais aucun tir de missile iranien n'a été détecté, selon l'armée israélienne. Et on parle aussi du film Jaws, qui a 50 ans cette année. Ça ne nous rajeunit pas. On entend encore la musique.
Oui. Hein.
C'est... Ça a été traumatisant, ce film-là, de Steven Spielberg, que je crois bien. Oui, Steven Spielberg. Et son film Jaws, qui changeait la face du cinéma hollywoodien avec l'aide d'un requin, écrit François Lévesque à la une du Devoir. Vaudreuil-Dorion, une autre femme tuée. Une fois de plus, un présumé féminicide secoue le Québec. Il pourrait s'agir du 5e cas depuis mai, du 10e depuis le début de l'année. Et donc, on a tous les détails dans la presse d'aujourd'hui. Un homme et une femme ont été retrouvés morts en Montérégie, au sud-ouest de Montréal, mardi matin. L'homme aurait vraisemblablement tué la femme avant de se suicider, selon la Sûreté du Québec. Il pourrait s'agir du 5e féminicide depuis début mai et du 10e depuis le début de l'année au Québec. On nomme les deux personnes, les deux victimes. Les deux personnes qui ont perdu la vie sont Francis Legault et Joannie Imbeault, qui formaient un couple toxique selon des amis de Francis Legault. Ça ne me surprend pas, a soupiré Sébastien Brunet-Blair, voisin et ami de longue date de Francis Legault. Celui-ci et sa conjointe Amélie Vaillancourt décrivent la relation du couple comme toxique. Bien malheureux. Et je ne sais pas si vous avez suivi le hockey, finale de la Coupe Stanley, toujours champion. Alors, on parle ici des Panthers de la Floride. La Coupe Stanley reste en Floride 5-1. La meilleure équipe a battu les meilleurs joueurs. Ça, c'est Guillaume Lefrançois dans la presse qui dit ça. Mais on annonce la victoire à la une du Journal de Montréal. Et ce qui prend aussi à peu près toute la place de la une du Journal de Montréal, c'est cette petite fille, Claire Belle, qui est disparue. 100 enquêteurs recherchent Claire, 300 informations vérifiées. Aucune piste solide encore. Son père demande votre aide sur les réseaux sociaux. 10 recettes sans cuisson pour l'été avec vous, Isabelle.
Ben oui, c'est parce que ça me tentait pas de réchauffer ma cuisine, comme je vous dis.
Il fait déjà assez chaud comme ça.
Non, c'est ça. Hier, c'est monté jusqu'à 28 degrés. Puis moi, j'habite dans un demi-sous-sol, hein, je tiens à le préciser.
Ah, c'est pas plus frais dans un demi-sous-sol?
Ben, c'est ça de vrai. Donc, j'imagine que les gens qui sont au troisième étage doivent encore avoir plus chaud.
Oui, doivent avoir l'impression de cuire s'ils n'ont pas l'air climatisés.
Donc, je vais vous donner la liste. En fait, les recettes, j'ai trouvé ça sur le site Togo, donc montogo.ca. Et le titre de l'article, c'est simplement 10 recettes sans cuisson pour l'été. Comme vous l'avez dit, c'est paru le 3 juin 2025. Et les 10 recettes d'abord, donc gazpacho dans une tasse. Une soupe froide, colorée, qui donne un air festif à l'apéro, servie dans une tasse avec des crevettes. Ça, c'est une des suggestions d'accompagnement. Elle réinvente le cocktail de crevettes classique de façon nutritive et tout aussi élégante. Ça, c'est la description. Ensuite, on a la tartinade de tofu, qu'on décrit comme une solution de rechange économique et protéinée à la tartinade du commerce. Un peu comme une crotonade ou un petit pâté, là, c'est pour remplacer ça. Ça fait des merveilles dans les sandwichs et les wraps, ou même avec des crudités. Et c'est très rapide à préparer, apparemment. Évidemment, moi, toujours, je rappelle que je suis allergique au soya, donc je ne peux pas goûter au tofu. Donc, ce n'est pas cette recette-là que je vous aurais fait goûter si j'avais été en studio. On a aussi une salade de roquettes et pois chiches d'inspiration marocaine. Une salade repas complète qui fait voyager, nous dit-on, avec ses saveurs du Maroc. Donc, pois chiches, menthe fraîche, raisins secs, épices. Tout ça pour créer un repas léger et coloré. Il y a une belle photo là, qui accompagne l'article pour cette recette-là, effectivement, là, avec l'orange de la carotte, l'oignon rouge, les herbes. Il y a des noix aussi dans la recette que je peux voir sur la photo.
C'est très coloré.
Très appétissant. On a ensuite un sandwich. Alors, évidemment, là, sandwich, c'est assez classique quand on veut faire quelque chose sans cuisiner, à moins de tomber dans les panini grillés et les grilled cheese. Mais ici, on parle d'un sandwich à la tomate et à la ricotta.
Ah, donc, ricotta!
Une réinvention du sandwich aux tomates classique avec une touche italienne, simple mais délicieux avec une garniture crémeuse de ricotta aux fines herbes. Ça aussi, ça a l'air vraiment bon. Ensuite, on a un tartare de saumon express.
Ah oui.
Cette recette emblématique de la cuisine française, prête en 5 minutes apparemment. Moi, il faut tout le temps que je double ça. Là, quand on dit 5 minutes dans une recette, ça veut dire que pour moi, ça va être au moins 10 minutes, mais c'est quand même assez rapide. Qu'on peut servir évidemment là, sur des croutons pour l'apéro. Et si on ajoute une salade verte, on peut peut-être se faire un bon petit repas complet avec ça. Ensuite, on a quand même un assez classique, la salade fraîche de cantalou et feta. Je me demande si ça fait penser un peu à ce que j'avais fait l'année dernière. Moi, c'était du melon d'eau. Mais vous savez, je vous avais fait goûter une salade, il y avait du feta dedans.
C'était
alors,
très, très bon.
Alors, un mélange entre le sucré du melon et le salé de la feta. Ça, j'ai trouvé ça avec le melon d'eau. Alors, j'imagine qu'avec le cantalou, ça doit donner à peu près des résultats similaires.
Alors, si vous étiez venu en studio, est-ce que c'est cette salade-là que vous nous auriez apportée?
Je vais vous le dire à la fin.
OK, punch final.
Je continue de vous faire saliver avec les différentes recettes.
OK.
On a encore des pois chiches pour un sandwich à la salade de pois chiches. Donc, un peu pour remplacer comme si c'était une sandwich aux œufs, mais c'est avec des pois chiches. Donc, un sandwich végé nourrissant.
Comme à l'houmous?
Ouais, ben j'ai pas. Là, je regarde juste la photo parce que, encore une fois, je suis allergique. J'ai pas regardé en détail
les
recettes
vrai.
Avec des pois chiches. Mais oui, sur la photo, là, on voit quelque chose de crémeux qui pourrait effectivement être de l'houmous orangé. D'après moi, on a rajouté des carottes là-dedans avec au lieu de la laitue, je pense qu'on a mis des épinards dans la sandwich. Ça a l'air très, très bon. Ensuite, on a les barres glacées fraises et fromage cottage. Ça, j'aurais jamais pensé à
être ça. Sur la photo, c'est que le fromage cottage.
Ben, ce qu'on voit, c'est des barres. On voit des carrés blancs avec des fraises entières ou en tout cas des tranches de fraises entières dedans. Quand je suis allée voir la recette, ça contient aussi des Rice Krispies, du fromage cottage. Je vais y retourner parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, du beurre d'arachide, évidemment, moi, je l'aurais essayé avec du beurre d'amande et des dattes.
Donc, c'est nourrissant.
Oui, c'est ça. Puis bon, mais on étale ça après l'avoir mélangé, on l'étale dans une plaque et on met ça au congélateur. Ensuite, on découpe encarrer une fois que c'est bien pris. En fait, on a le pudding de chia, poire et chocolat. Donc, ce fameux pudding-là, en fait, c'est on mélange un liquide avec des graines de chia qu'on fait gonfler. Ça, c'est la base. Puis ça fait comme un pudding. Toujours délicieux. Et finalement, les boules d'énergie gâteau aux carottes. J'avoue que ça m'a tenté. Toute la saveur réconfortante du gâteau aux carottes dans une collation santé sans cuisson prête en 15 minutes. Donc, vraiment pratique là, pour mettre dans la boîte à lunch ou en pique-nique ou quand on va faire du sport et qu'on veut avoir une petite boule d'énergie,
bien, oui.
Une dose rapide d'énergie qui se transporte bien. Mais moi, il y avait deux recettes qui m'intéressaient. Il y avait la gazpacho. Parce que c'est toujours bon. En fait, la gazpacho, c'est un classique. Puis j'étais vraiment curieuse de voir là, la version
avec crevettes.
Nutritionniste de To Go. Oui, ben en fait, c'est intéressant ce qu'on fait dans la recette. Je ne l'ai pas fait, la recette de gazpacho. Là, je vais vous dire la vérité. C'est pas cette recette-là que j'ai faite. Mais c'est qu'on fait la gazpacho. Donc, on mélange les tomates, les poivrons, les céleris, oignons rouges, ail. On met ça au mélangeur avec de la sriracha, de la sauce Worcestershire, d'autres assaisonnements, bref. Et une fois qu'on a mélangé ça, on met ça dans une tasse et c'est dans la garniture. Dans le fond, ce qu'on nous suggère, c'est de mettre sur le bord de la tasse, mm-hmm. vers des grosses crevettes cuites, évidemment,
ouais.
ou encore une brochette avec des tomates cerises et des bocconcini.
Je vois la photo et c'est vraiment joli. C'est appétissant. Ça se sert bien, hein?
Mais moi, la recette que j'ai préparée et que j'ai pas pu goûter encore, malheureusement, là, parce que j'ai fait ça ce matin.
Nous non plus, ça a l'air qu'on y goûtera pas.
Mais c'est ce que vous auriez goûté. Alors,
un jour.
Plus en détail, celle-là. Alors, c'est les fameux puddings aux graines de chia. Donc, cette recette-là, je n'y ai pas goûté, mais c'est quelque chose que je fais souvent. Donc, je peux vous confirmer que c'est bon. En l'occurrence, ici, on a un quart de tasse de graines de chia. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est des toutes petites graines qui gonflent.
Il y en a des noires, il y en a des blanches.
Exactement. Vous pouvez les acheter en vrac ou dans la section produits naturels de toutes les bonnes épiceries. Et puis, donc, on a un quart de tasse de graines de chia, une tasse et demie de lait ou boisson végétale nature. Moi, j'ai pris du lait de coco parce que c'est ce que j'avais chez moi. Deux cuillères à soupe de cacao, une cuillère à soupe de sirop d'érable et deux poires. Moi, évidemment, vous savez, je ne fais jamais les recettes comme c'est indiqué parce que je n'avais pas ça, des poires, mais j'avais de délicieuses framboises noires et des mûres du jardin d'une amie qu'elle avait congelées l'année dernière et qu'elle m'avait donnée.
Ça doit être bon aussi?
Ben, honnêtement, là, framboise chocolat, c'est toujours délicieux.
Oui, c'est vrai que c'est un beau mariage.
Alors, dans le fond, c'est ça. Vous prenez dans un grand pot de style maçon. Là. Moi, j'ai pris un 150 ml parce que quand même, on a une tasse et demie de liquide plus des graines de chia. Donc, je voulais qu'il y ait de la place là, pour que ça... Et ça a donné un bon résultat. Là, c'était un parfait format. Donc, on met les graines de chia, le lait, le cacao, le sirop d'érable. Moi, je suggère de mélanger le cacao et les graines de chia d'abord avant de mettre les éléments liquides parce que c'est plus facile de délayer le cacao. Mais ça va bien quand même. Ensuite, dans la recette, on coupe une poire en petits cubes, une des deux poires, et on l'ajoute au mélange.
Si on met des poires.
Voilà. Ça, c'est si on met des poires, mais moi, j'ai mis à peu près, je vous dirais, l'équivalent d'une une demi-tasse là, de framboises et de mûres. Et ensuite, on réfrigère au moins 30 minutes, mais idéalement toute une nuit pour que le pudding puisse épaissir. Et puis, au moment de servir, c'est là qu'on coupe la poire restante en morceaux et on garnit là, les deux portions parce que la recette que je vous ai donnée, c'est pour deux portions.
Bon, on va essayer ça. Voilà. 10 recettes sans cuisson pour l'été. Puis, ben, quand vous repasserez, quand vous serez plus en forme, Isabelle, on attend...
Ben oui.
On attend le gazpacho et puis on attend cette pudding.
Le gazpacho, ça se transporte bien. En plus, je ne peux pas vous promettre les crevettes, mais peut-être.
Ah, qui sait? Qui sait? Oui, j'étudie, c'est un pudding, hein? C'est pas une pudding.
Ouais. Un pudding.
Un pudding et un gazpacho. Merci! l'heure de la chronique de Serge Bradet. Serge, vous allez commencer par nous raconter l'histoire, l'origine du CD et du DVD.
Exactement, oui, oui, oui. Alors, c'est deux auteurs, Karen Jégot et Victor Batadjian, de la revue Historia de quand ça date. Alors, de petits disques aux reflets hérissés vont révolutionner le monde des loisirs. Apparus dans les années 1990 en France, ils sont devenus aujourd'hui interactifs. En 1979, Philips et Sony Corporation décident de s'associer pour mettre au point le CD, compact disc. Pour cela, les ingénieurs se basent sur la technologie du disque optique breveté en 1961 par David Paul Gregg. Ce dernier a l'idée de créer un nouveau format audio et vidéo via un disque en plastique en rotation, traversé par un faisceau de lumière concentré. Alors, pour mener à bien ce projet, Philips prend en charge la conception du CD et Sony le format utilisé pour numériser le son. Les premiers prototypes de Philips mesurent 115 mm de diamètre pour une capacité de 60 minutes. Mais, devant l'assistance d'un grand chef d'orchestre, que je vais vous nommer tout à l'heure, peut-être que vous allez, Daniel va sûrement avoir le nom, mais aussi de l'épouse du PDG de Sony, grande fan de musique classique, un format de 100 mm avec une capacité de 74 minutes est privilégié, permettant ainsi de contenir la version la plus longue de la 9e symphonie de Beethoven. Ah. Et le chef d'orchestre, c'est...
Je me souviens pas. Ah, mais le chef d'orchestre, oui. Ou le compositeur, le chef, non, je me souviens pas.
Ah oui, c'est Karajan, Herbert von Karajan.
Okay. Ah oui.
Oui, on l'avait appelé, on lui a dit, écoutez, c'est quoi la plus longue, la durée de la plus longue œuvre symphonique?
C'était 74 minutes.
Et c'était la 9e symphonie de Beethoven, oui. Ouais. Ouais. Alors, en 1982, les deux premiers albums CD font leur apparition dans les bacs. Il s'agit de la symphonie alpestre de Richard Strauss et de The Visitors du groupe ABBA. Daniel connaît le groupe ABBA.
Tout le monde connaît le groupe ABBA.
Mais pas moi.
Je connais le nom.
Mais le CD, en raison de sa grande qualité sonore, est vite catalogué comme produit réservé aux mélomanes classiques. Et le public le boude. Il faut attendre la sortie de, attention, Brothers in Arms, de Dire Straits. Bon,
oui,
merci.
Oui.
Je savais que je le prononçais pas comme il faut.
Quel bel album.
Qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires. Pour que le compact disque se démocratise. Et en 1984, nouvelle innovation, le CD est modifié afin d'accueillir, en plus du son, le stockage de données numériques. C'est le fun parce que Daniel approuve.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va, là.
J'ai la toune de Dire Straits en tête, Mark Knopfler.
Le DVD, Digital Video, Dice or Digital Versatile Disc, quant à lui...
Pardon me?
Pardon me, oui.
Digital Virtual Disc.
Versatile Disc. Quant à lui, né à l'hiver 1995 à l'initiative de Warren Leberfarb, patron de Warner Home Video. Dans les années 90, le marché de la VHS fait grise mine. Elle commence à baisser un peu. Pour remédier à ça...
Grise mine? Mine grise?
Grise mine.
OK.
Qu'ils disent ici. Une revue française, hein?
Pic du nez, ça.
Griezmann?
Je sais pas. Ça veut
ah,
dire...
Ah, Griezmann, oui, ça fait...
Ça commence
un peu
à...
Pic, là. Ça commence à faire pitié, à avoir de la misère, là.
OK.
Griezmann, oui. Pardon-moi. Pour remédier à la faible qualité de ce support et à ses ventes en baisse, Warren Leberfarb lance le projet Taz, en référence au personnage de dessin animé, afin que tous les acteurs du monde de la vidéo s'accordent sur un même nouveau support de diffusion. Parce que, il y a eu le VHS puis le bêta. Hein? Alors, c'est ça. On ne voulait pas recréer ça, je pense. En 1994, les 7 plus grands studios américains rédigent une wish list indiquant leurs attentes
une
en la matière.
Wish list.
Ah, hey, oui, français. Ah, c'est français, ça. Oui. Oui.
Traducteur.
Indiquant leurs attentes en la matière. C'est-à-dire un support pouvant contenir un film d'au moins 135 minutes avec un doublage en 8 langues, une haute qualité de son et d'image. Alors, Warner, Toshiba et Philips Sony se lancent dans la course. Ta-da-ta-tam! Le DVD pouvant être utile à la fois pour la vidéo et le stockage de données, le patron de Warner cherche à rallier à sa cause le monde de l'informatique. Pas bête. Il y parvient finalement, après des négociations, à la suite d'une projection privée du film « Le Fugitif » avec Harrison Ford en février 1995. Pour éviter que deux supports non compatibles sortent sur le marché, Warner menace d'intenter un procès à Philips et Sony pour violation des lois antitrust. Après moult remous, Warner Toshiba remporte la partie. Les premiers lecteurs DVD sont vendus en France début 1998, probablement les mêmes dates au Québec, là. Désormais, on peut voir avec une meilleure définition les premiers films français distribués en DVD. Les premiers, ça a été Léon de Luc Besson et l'autre Microcosmos de Claude Nuride de Sani et Marie Perrenou.
Je connais pas.
Et voilà, moi non plus, pas ces deux-là, non. Je connais le premier, par exemple, Léon de Luc Besson.
Ben, merci. Est-ce que vous vous souvenez du premier CD que vous avez acheté ou écouté?
Mon Dieu, je pense
que j'imagine c'était... que c'était classique.
Oui, vous ne vous trompez pas, là, en affirmant ça. Je pense que c'était la deuxième version de La Norma de Maria Callas qu'elle a fait en 59 ou 60.
Ah oui, ça devait...
Moi, j'adore ce opéra-là.
Est-ce que vous aviez trouvé une différence avec le son, si vous comparez le son avec un disque vinyle?
Oui, bien, évidemment, le disque vinyle finit par se... des égratignures, ouais, tout
par
ça.
Pétiller,
et oui, il y a une clarté. Par contre, certains experts diront que c'est plus froid, le CD.
Ben, ça dépend. Il faut toujours faire attention à ce qu'on compare une super bonne câble tournante avec un lecteur de CD moins de qualité. Donc, il faut faire attention.
Oui, c'est ça. Ouais.
Daniel, en 5 secondes?
En 5 secondes, je ne me souviens pas. J'ai tellement de CD, je ne me souviens pas le premier.
Harmonium.
Harmonium. Isabelle?
Les Cranberries. C'était très tard pour les CD, mais moi, j'avais pas.
Et moi, c'était Money de Pink Floyd. On reste en onde. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et oui, avec tout le monde. Hein. Il y a Daniel qui est en studio, Serge en studio, puis Isabelle qui est loin, mais qui est avec nous quand même, hein, Isabelle?
Oui.
Mais oui, je vous ai un peu coupé la parole. Vous disiez quoi à propos de Cranberries?
Mais moi, c'est mon premier CD que j'ai acheté, c'est les Cranberries, No Need to Argue. Parce qu'avant ça, j'écoutais des cassettes que mon ami qui possédait une grande quantité de CD m'enregistrait.
Ah, d'accord. Cranberries, hein, c'est encore bon. Mais la chanteuse n'est plus.
Non, c'est triste, mais il y a une petite nostalgie maintenant quand j'écoute ça.
C'est sûr. Alors, allons-y donc avec maintenant l'origine de quelque chose d'autre, le GPS.
GPS, oui.
Ça veut dire quoi, GPS?
Je pense que c'est Global Positioning System.
Ah ouais, c'est le Global.
Mathieu, demande-les, je l'ai.
Ah oui,
merci.
L'encyclopédie tout connaître, une chance qu'on l'a.
Le petit génie.
L'encyclopédie tout Mathieu.
Oui. Alors, où suis-je, où vais-je? C'est le titre de l'article pour le GPS. Perdu en rase campagne? Pas de panique. Vous avez plus d'une très grande quantité de satellites sont placés en orbite autour de la Terre et viennent depuis 1995 à votre secours pour vous sortir de ce mauvais pas. Au début, on a lancé, c'était 28 satellites. Évidemment, avec le temps, là, il y en a depuis 2012, là, on n'arrête pas de lancer des satellites. Le géopositionnement par satellite GPS est issu d'un projet mis au point en 1973 par le gouvernement de la défense américaine.
Ça fait plus de 50 ans.
Oui, à la demande du président Nixon. Le concept et la création de ce système reviennent à Ivan A. Getting. Le principe est simple. Un groupe de satellites en orbite autour de la Terre émettent des micro-ondes perçues par des récepteurs GPS qui déterminent ainsi une position choisie. Alors, pour Getting, ces satellites doivent être des phares dans le ciel guidant toute l'humanité. Belle phrase, hein? Le premier est lancé en 1978 par une fusée Delta 4. Le dernier a mis en orbite en 1993, pour les essais, là. Et le système GPS est déclaré totalement opérationnel en 1995, avec un total de 28 satellites en orbite, 24 titulaires et 4 en réserve en cas de dysfonctionnement, de panne. Onéreux. Il coûte, à l'époque, en 2012, chaque année, près de 750 millions de dollars. 750 millions de dollars pour son entretien et développement au gouvernement américain.
Oui.
Donc, c'est...
Ça des bidoux?
Ça doit être rendu dans le milliard aujourd'hui. Hein? Le système GPS est créé et utilisé à l'origine par les militaires, leur permettant de localiser précisément les cibles, guider les missiles et mieux larguer les bombes dans le camp ennemi. Ça me permet de dire que c'est ce qu'on voit actuellement avec en Israël et
en Iran,
même avec Gaza. En septembre 1983, toujours sur fond de guerre froide, vous rappelez le vol 007 de la Korean Airlines qui a été abattu au-dessus de la Russie à ce que les pilotes s'étaient égarés. Il n'y avait pas de GPS. Alors, l'avion a été abattu. et tout le monde est décédé. Et ça a été, ben, le président, c'est durant le règne du président Reagan, qui a proposé alors que le GPS soit désormais accessible aux civils, ainsi que afin que ce type de catastrophe soit évité. Alors, le système GPS dispose encore d'un accès sélectif. Sa précision est limitée à 100 mètres pour ceux qui ne font pas partie de l'armée américaine. Cette restriction est levée début mai 2000 par le président Bill Clinton. Alors, je ne sais pas si on l'a changé ça, mais en tout cas, ça date de 2000. Des technologies semblables au GPS sont mises au point par d'autres pays. Le GLONASS en Russie, lancé dans les années 1980, le COMPASS ou Beidou en Chine, initié en 2000, et le système Galileo en Europe, qui est opérationnel depuis 2014. Alors, l'usage du GPS s'est répandu et le succès commercial est au rendez-vous. Il est utilisé aujourd'hui dans les domaines maritimes, aériens et routiers. Il sert dans les missions de sauvetage, de reconnaissance et dans la recherche. Sur le plan scientifique, il permet, entre autres, d'étudier les mouvements des plaques. Sur celui des loisirs, c'est l'outil idéal du randonneur. Le randonneur pédestre, le cyclotouriste ou plus largement répandu, l'automobiliste, qu'est-ce qu'on ferait sans GPS aujourd'hui quand on vous invite à aller en quelque part ou que vous décidez d'aller
quand ça
ne
vous tente pas de vous perdre.
Oui, exactement, oui.
Parce qu'en vacances, ça peut être le fun aussi.
Oui, absolument.
On découvre plein de choses.
Oui. Totalement démocratisé, le prix est maintenant assez accessible. En fait, maintenant, il est dans presque tous les téléphones. Vous avez un téléphone, là, vous avez le GPS automatiquement. Vous mettez Google Maps, je pense, puis vous entrez. Et c'est d'une simplicité enfantine.
L'affaire est dans le sac.
Oui, oui.
Dans le téléphone.
oui. Alors, les cartes routières sont désormais reléguées. Conclusion, les cartes routières sont désormais reléguées au fond de la boîte à gants. Quand avez-vous consulté une carte routière pour la dernière fois?
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps,
Ben, on l'a sur le... J'aime ça. Quand on regarde sur le... notre ordinateur nous le donne. Vous avez une carte, vous avez des cartes, mais... On voit jamais ça, on dit au GPS, tu m'amènes là.
Mais jamais ça, ouvrir une carte pour vrai, puis voir l'ensemble, souvent, on a juste une petite partie avec les GPS.
C'est une autre expérience.
Ce qui était pas moins drôle, c'est de replier la carte.
Oui. c'est ça.
Un jeu de patience.
Qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ses yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser.
Quelle belle chanson!
Vous avez probablement reconnu Jean du pays.
Oui!
Je pense qu'on l'a beaucoup entendu depuis 50 ans. Et oui, cette chanson-là avait été entendue pour la première fois aux fêtes nationales de Saint-Jean-Baptiste en 1975. Donc, la semaine prochaine, le 24 juin, ça va faire 50 ans qu'elle a été interprétée pour la première fois devant un public.
C'est sûr qu'on va souligner ça.
Mais elle avait été écrite un petit peu avant, bien entendu. Donc, c'est pour ça tantôt, j'ai été vague sur la date exacte du 50e anniversaire. On n'allume pas les chandelles sur le gâteau tout de suite, là. On va faire
Mais
ça.
Sur la montagne, on avait l'impression qu'ils s'improvisaient, mais je vous laisse
aller. Oui, mais c'est ça. Moi, je n'avais pas vraiment de souvenir de ça. Tantôt, vous m'avez posé la question.
Si vous étiez
75,
là.
J'étais au cégep à l'époque. Est-ce que ça m'intéressait, les fêtes de la Saint... Je ne sais pas. Je m'en rappelle. Il faut se rappeler, oui, il y avait quand même une montée de nationalisme à l'époque, mais le Parti québécois n'avait pas encore été élu, c'est seulement en 76.
Mm-hmm. Un an plus tard.
Fait que, je ne sais pas, peut-être que j'ai fêté la Saint-Jean ailleurs.
Vous écoutiez CKJM.
Oui, mais c'est peut-être pas. Peut-être qu'on se disait, bon, la Saint-Jean-Baptiste, ça se passe pas juste à Montréal. Là. Fait que,
vous étiez où à l'époque?
Je restais à Granby à l'époque.
OK, OK.
Probablement qu'on a fêté ça quelque part avec des amis. Bon. Peut-être qu'on a fêté beaucoup, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai fouillé pas mal pour ça, parce que je sais que la semaine prochaine, on va avoir des documentaires, on va avoir des trucs pour célébrer ce 50e anniversaire-là. Donc, je suis un petit peu en avance. Sinon,
comme
je me
toujours.
Disais, tout va avoir été dit, j'aurais plus rien à raconter. Donc, je me souvenais pas, mais à l'époque, c'était Mme Lise Payette qui était la présidente du comité des fêtes. Ça s'appelait le comité des fêtes. C'était pas encore la fête nationale officiellement. Ça, c'est arrivé.
On disait la Saint-Jean. Mm-hmm.
Oui, on disait la Saint-Jean. La fête nationale, c'est arrivé seulement en 1977, quand le Parti québécois. Après que le Parti québécois a été élu. Donc, l'édition de 1975, ça s'étendait sur 5 jours. On ne fêtait pas à peu près à l'époque. Là. Aujourd'hui, il me semble, la Saint-Jean, c'est une journée.
Mais c'est des fois, il y a la veille, puis
ouais,
le jour même.
Dépendamment des endroits, le spectacle est le 23. Bon.
À Québec, le 23, le lendemain, 24, mais il y a des fêtes partout.
Les artistes
ne
peuvent pas être partout en même temps, donc ils font ça en 2 jours. Le Mont-Royal, je pense que c'était la première fois aussi qu'il y avait un événement de cette ampleur-là sur le Mont-Royal. Et encore là, d'après ce que j'ai compris, c'est Mme Lise Payette qui avait décidé que le Mont-Royal, c'était le meilleur endroit.
Très bonne
peut-être
idée.
Peut-être pas dans la province, mais mettons le meilleur endroit à Montréal pour faire ce genre d'événement-là. Et le premier soir, le 24 juin, parce que les 5 jours, ça commençait le 24. Et le premier soir, c'était un mardi. Ça aussi, je regarde le calendrier.
Et, un petit mardi.
C'était... ceux qui faisaient le spectacle, c'était Yvon Deschamps, Louise Forestier et Gilles Vigneault. Et qu'on connaît Yvon Deschamps, et on connaît à l'époque aussi comment il pouvait être un provocateur. Le titre du spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, c'était « Happy Birthday ». C'était, oui, c'était vraiment pour provoquer.
Mais je comprends.
Et Yvon Deschamps et Louise Forestier avaient lancé un défi un peu avant. Ils avaient lancé un défi à Gilles Vigneault pour lui dire ça prendrait une chanson québécoise qu'on pourrait chanter lors des anniversaires pour se débarrasser du maudit Happy Birthday. On a beau chanter Bonne fête en français. C'est quand même Happy Birthday. Tu sais. Donc, mais avant d'aller plus loin dans l'histoire d'Happy Birthday, je vais vous faire écouter un extrait du discours d'ouverture de Lise Payette. Je pense que c'est un événement historique. Ça vaut la peine de prendre une minute.
Québécois. Je souhaite que nous vivions ensemble, réunis sur ce Mont-Royal, des moments inoubliables de joie, de fraternité et d'amour. Pendant presque 5 jours et 5 nuits, nous allons nous parler, nous allons nous chanter et nous allons nous trouver beaux. 8 scènes sont réparties sur le Mont-Royal. La plus grande est celle-ci qui ressemble à un immense cerf-volant et qui accueillera dans quelques instants Louise Forestier, Gilles Vigneault et Yvon Deschamps. Et comme président du comité des fêtes 1975, je déclare la fête nationale du Québec ouverte.
Yeah! Hey, hey, 5 jours, 5 nuits de joie, de fraternité, d'amour.
Ça fait.
Et avec un petit peu de bière aussi,
Ça, puis avec un feu, un feu d'artifice et un feu de
un feu de joie.
Qui a toujours un peu
ça donne
chaud,
des frissons de l'entendre. 8 scènes.
8 scènes.
Grandiose.
Oui, grandiose. Et ça aussi, c'est une chose que je ne me souvenais pas. Le premier soir, le spectacle du 24 juin, Happy Birthday, avait été télédiffusé à Radio-Québec. Radio-Canada, pardon.
Ah oui.
Je sais qu'il y avait avant Télé-Québec, ça s'appelait
Radio-Canada. Oui, mais c'était sur les ondes de Radio-Canada.
À Radio-Canada. Et Mme Payette avait mentionné la fête nationale, alors que ce n'était pas encore officiellement.
Ah, OK.
La fête nationale. Je ne sais pas les gens de Radio-Canada.
Est-ce que ça avait eu quoi, des
je
échos?
Je ne me souviens pas du tout, mais probablement qu'il y en a qui ont été un petit peu froissés. Mais bon, à l'époque, ils étaient, ça froissait. Ça un peu aussi à l'occasion. Donc, quand j'ai commencé à vous parler tantôt comment la chanson est arrivée, c'est que Yvon Deschamps et Louise Forestier, qui commençaient à préparer ce spectacle-là avec Gilles Vigneault, leur ont lancé un défi pour dire « ça nous prend une chanson ». Et Gilles Vigneault aurait écrit cette chanson-là. Ça, j'ai trouvé ça un peu par hasard aussi dans un autre article. Le manuscrit est disponible à BANQ, OK, Centre d'archives. Et ça aurait été écrit au dos d'une affiche d'un spectacle de Gilles Vigneault.
Oui.
Il a déchiré une partie, écrit ça rapidement. Et apparemment, il y a seulement certaines paroles qui ont été changées.
Donc, ça a été un premier jet?
Ça a été comme presque un premier jet.
Wow.
Et cette chanson-là n'a pas été enregistrée officiellement avant 1976. L'année suivante, ça a été encore chanté à la Saint-Jean-Baptiste.
L'année où le PQ a pris le pouvoir.
Oui, c'était juste avant, parce que le PQ a pris le pouvoir en novembre.
Ouais.
Mais
oui.
Déjà, c'est comme on dirait que ça annonçait, ça ouvrait le chemin. Là. Donc, cette chanson-là, non seulement a eu un impact sur les festivals, pas les festivals, mais les festivités mm-hmm. de Saint-Jean-Baptiste, mais on sait qu'aujourd'hui, ça a vraiment fonctionné, l'idée d'Yvon Deschamps. Les anniversaires aujourd'hui,
bien, oui.
C'est cette chanson-là qu'on utilise.
Oui.
Ben, je ne sais pas si
c'est très rapide, d'ailleurs.
Reçoit des droits à chaque fois, mais c'est assez impressionnant le nombre de fois qu'on entend cette chanson-là. Donc, je vous disais, cette chanson-là, elle n'avait pas été enregistrée ce soir-là, sauf la version qu'on va entendre sur l'émission de Radio-Canada. Et en passant, cette émission-là, elle est disponible sur YouTube. Je l'ai écoutée hier.
Au complet?
Je l'ai écoutée hier. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai pris l'extrait de la présentation de Mme
On peut l'entendre au complet?
On peut l'entendre au complet, émission d'une heure. Et j'ai dû couper beaucoup d'applaudissements parce que Mme Payette parlait, ça applaudissait beaucoup, ça a été long. Je pense qu'on n'aurait pas encore fini.
Ah oui, à ce point-là.
Bon, oui, l'atmosphère était vraiment
électrique.
Oui. Donc, on va écouter un extrait du début du spectacle avec Yvon Deschamps puis Gilles Vigneault, Louise Forestier.
Moi, j'ai apporté ce que j'avais. Moi, tout ce que je sais faire, c'est des chansons, mais j'ai fait un chant d'anniversaire.
Tu veux dire que t'as fait une chanson juste pour nous autres?
Pour nous autres? Et nous autres, en français? Parfait!
OK! C'est le fun!
Ça.
Il est à temps. Ça fait 200 ans qu'on l'attend.
Ah oui?
Veux-tu le prendre?
T'es bien sûr.
Je te la montre,
OK,
moi, là.
Ça marche de même. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Oh, merci pour le cadeau, hey.
Oh, c'est beau.
Je pense qu'on l'essaye. On va l'essayer
encore.
Êtes-vous prêts à essayer ça? Parfait.
Jean du pays, c'est votre tour.
Hey, c'est un privilège d'être comme ça dans la salle, ben pas dans la salle, mais sur la montagne, participer à une création d'une chanson.
Si j'avais été là, je m'en souviendrais certainement.
Ah, ça, c'est sûr.
Et là, dans le fond, vous venez d'entendre la première fois que cette chanson-là a été interprétée en public.
Oui.
C'est quelque chose quand même.
Ben oui.
Puis quand on se rend compte que tout ce monde-là a réussi à chanter comme ça du premier coup, ça
c'est
veut
magique.
Dire que, un, c'est simple, ça atteint tout le monde, c'est rassembleur.
Et non seulement qu'on la chante aujourd'hui, mon cher Daniel, mais quand on envoie des vœux quelquefois, on peut écrire « c'est à ton tour », juste « c'est à ton tour », puis...
Ça, c'est ça qui apparaît, ouais, c'est
le
ça qui sort sur Google en partant.
Le message est complet.
Ouais, ouais, oui. Donc, je pense que M. Vigneault peut être fier de plein de choses. Mais ça, c'est vraiment un coup de maître. C'est incroyable comme cette chanson-là a pris de l'ampleur. Puis je suis sûr que ça a sorti du Québec aussi. Ça doit aller un petit peu plus loin.
Ah, peut-être.
Et,
je sais pas.
Je sais pas, j'ai jamais entendu. Il faudrait demander à nos amis français s'ils entendent ça.
On va appeler Emmanuel.
Parce que je pense que ça vaudrait la peine. En tout cas, il faudrait étendre ça plus loin.
On va appeler Manu et Brigitte.
Ça vaut la peine. Et ce qui m'a surpris aussi quand j'ai écouté et regardé, quand j'ai visionné le spectacle au complet.
Disponible sur YouTube. On vous le rappelle.
Oui, oui, disponible sur YouTube. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Il y avait d'autres invités aussi. Il n'y avait pas seulement Yvon Deschamps, Gilles Vigneault et Louis Forestier.
C'est le grand soir de Ginette.
Non, c'est ce qu'on souvient.
Un peu plus haut, un peu plus loin.
Non, Ginette, c'était le concert de fermeture des fêtes. Il y avait 5 jours. Elle, c'était le dernier
elle
soir.
Elle était là, mais pas le premier soir.
C'est ça,
okay.
Elle n'était pas là le premier soir. Et le premier soir, il y avait des artistes aussi variés que... Tijan Carignan,
qui
a
violon.
Été présenté comme étant le meilleur violoneux au monde. Mm-hmm. Pas violoniste, mais violoneux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se souviennent pas de Tijan Carignan, mais ici...
Un grand violoneux qui a été un collaborateur important dans la carrière d'André Gagnon.
Oui. Mm-hmm. Donc, ça, c'était quand même un personnage, c'était plus qu'un musicien. Il y avait Raoul Duguay aussi, qui avait interprété l'abbé Tatibi.
Wow.
Je ne sais pas si elle était déjà connue. Je me souviens vaguement si c'était déjà connue à l'époque ou si c'est vraiment là qu'il l'a fait connaître. Mais en tout cas, là, il y a pas mal de monde
ça a décollé.
Qui l'ont entendu. Ça a décollé. Et il y avait aussi... accrochez-vous bien. Ça, j'étais un peu surpris. Je me demandais qui avait eu l'idée, qu'est-ce que ça venait à faire dans un concert de Saint-Jean-Baptiste.
Ah
oui? Là.
Qui, ça?
Il y avait un sketch avec Rose Ouellet.
Ah, du burlesque.
Et Juliette Pétry.
Ouais.
Tu souviens de ça?
Oui.
Moi, je me souvenais pas vraiment de ça. Je me disais, voyons, je n'ai-tu changé de poste?
Est-ce que c'était drôle?
Ben, vaguement, là. Ouais. C'était peut-être plus drôle pour l'époque, là.
Sur une des 8 scènes ou sur la scène principale?
Sur la scène principale.
Ça
m'avait un petit peu surpris. Bon, quand même, on voyait qu'il avait quand même essayé. Probablement réussi. À toucher un public beaucoup plus large. Ouais. Pas seulement,
pour toute la famille, pour tous les goûts.
Tous les goûts, tout ça.
D'ailleurs, on les a redemandés, les deux, pour d'autres fêtes de la Saint-Jean. Au moins une autre fête de la Saint-Jean, je me rappelle.
La Poune et Juliette
Pétry. Oui. Ben, elles ont beaucoup travaillé ensemble.
C'est un duo. Au Théâtre des variétés.
Il y avait toujours cette... rivalité, c'est-à-dire que Mme Pétry jouait le rôle un peu plus...
Se faire valoir. Un peu comme Léo Rivet, Claude Blanchard.
Ouais, effectivement, dans les duos, il y avait toujours...
Jouait le rôle un peu plus... de quelqu'un qui était un peu plus cultivé, qui sait plus de choses, puis la peau moins cultivée.
OK. Alors, quand c'était leur rôle.
Rose, tais-toi donc, là. Tu vois,
mais c'est ça, moi...
Il reste 3 minutes.
3 minutes.
Vous voulez écouter la dernière chanson avant la fin?
Ben, 3 minutes de blabla.
3 minutes de... je pensais qu'on fallait pas commencer tout de suite à la chanson. On a encore du temps. OK. je voulais spécifier justement que le 23 juin 1976, donc l'année suivante, il y a eu le spectacle Une fois cinq.
Oui.
Avec Charlebois, Vigneault, Deschamps, Jean-Pierre Ferland et Claude Léveillé.
On a l'album chez nous. Ouais. On l'avait, là. On l'a toujours, je pense.
Devant 400 000 personnes. Et là, ça aurait été la première fois que la chanson « Gens du pays » a été gravée sur disque.
Okay.
Parce qu'avant, elle avait été chantée, mais elle n'était pas encore enregistrée, elle n'était pas encore disponible. Sauf que la version qu'on a entendue tantôt, c'est clairement une version studio. Là. Je ne sais pas si ça a été fait après, je ne sais pas à quelle époque elle est sortie.
Avec des arrangements particuliers, là, on entendait une harmonica.
Mais c'est ça, quand même, il y a sûrement plusieurs versions de cette chanson-là disponibles, surtout avec plusieurs prénoms différents. Dépendamment de qui on fête. Je pense que Mathieu est en train de rechercher la date de l'enregistrement.
Mais en attendant, là, continuer parce que je sais que vous avez d'autres choses à dire.
Mais, je pense que j'étais un petit peu décousu. Là.
Je suis en train de voir que vous disiez qu'il y avait des documentaires, qu'il allait avoir des émissions spéciales. Il y en a une dont j'ai parlé en début de semaine à Télé-Québec. Ça va se passer dimanche 21h30, donc avant la Saint-Jean. On dit que cette année marque les 50 ans de Jean du Pays, qui est devenu l'hymne officieux du Québec lors des festivités de la mythique Saint-Jean de 1975 sur la montagne. Et pour l'occasion, Louise Forestier et Yvon Deschamps reviennent sur la genèse de la chanson. Et ils vont avoir aussi plusieurs artistes qui vont revisiter les pièces les plus marquantes de Gilles Vigneault, Rivard, Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, Lou-Adrienne Cassidy, Kathleen Fortin et Mathieu qui sont du lot. Et le poète de 96 ans, lui, fait un retour émotif dans son Attachquan natal avec Boucard Diouf. Ça devrait être très bon comme émission. C'est à Télé-Québec dimanche
absolument,
à 21h30.
Absolument. C'est pour ça que je voulais absolument faire ma chronique aujourd'hui avant ça, parce que là, eux autres vont tout raconter.
Et puis là, Daniel, vous vouliez nous présenter une autre chanson qui a Jean du Pays dans le titre.
Bien, c'est parce que les gens confondent souvent la chanson Jean du Pays qu'on a entendue en début de chronique avec la chanson Les gens de mon pays.
Oui.
Qui est une autre chanson de Gilles Vigneault qui est sortie, elle, en 1965, donc 10 ans avant. Alors, je pense que ça vaut la peine d'écouter les gens de mon pays pour vraiment, pour une fois, entendre toutes les deux dans la même chronique. Et voici, vous savez, les deux chansons différentes et non pas une version différente. C'est deux chansons différentes.
Gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai danse aux pieds et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce nez je désire, oh, vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures jusqu'à perdre mon nom, vos voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champs et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours du village, voix des beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, pillailleurs ridicules et palabres esparages, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme Paris de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme un mer en falaise, je vous entends passer comme un glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté.
Ça, c'est de la passion.
Oui, assez grandiose, celle-là aussi. Et je voulais mentionner absolument que Gilles Vigneault a écrit les paroles de ces deux chansons-là et il a écrit la musique en collaboration avec Gaston Rochon.
Importante information.
Très importante.
Daniel Lachance, infinie, merci pour cette super chronique. Bonne Saint-Jean, bonne fête nationale.
Merci
à
beaucoup.
Vous,
merci
à Serge Bradet, à Isabelle Falardeau.
Merci.
Et on se retrouve bientôt. Bon été,
merci
Daniel.
Merci beaucoup.
Bonne Saint-Jean, bon été.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille, et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile. De la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux, et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille. Cécile.
Claude Nougaro. Cécile, ma fille.
Avez-vous dit Nougaro?
J'ai dit Nougaro, pardon.
Ah, oh, cher Mathieu. Oui, Claude Nougaro. Et Cécile, c'est touchant comme chanson. Et c'est une chanson qu'on retrouve sur la bande originale du film Partir un jour de Amélie Bonnin. C'est le premier film dont va nous parler notre chroniqueuse cinéma, Louise Véronique Sicotte. Bonjour, Louise Véronique.
Bonjour, Hélène.
Alors, allons-y donc avec la bande-annonce, puis vous nous parlez du film. Vous nous donnez vos impressions tout de suite après.
Salut, maman.
Oh, ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée?
La question, c'est plutôt, qu'est-ce que toi, tu fais là?
Bah alors, Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi, tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde!
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
C'est toi la dame qui a gagné Top Chef?
Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, cette chebesse.
Une chebesse!
Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite!
Mais c'est pas cool! Je vais devoir rester plus longtemps, finalement. C'est compliqué avec mon père.
Faut savoir ce qui te fait rire.
Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine.
C'est qui ce mec?
Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec.
Cécile m'a beaucoup parlé de toi.
Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout.
Tu veux juste t'acharner, mourir ici, dans cette cuisine?
T'as qu'à rester nous aider.
Mais j'ai une vie, putain, papa.
Oh, bah ça, on avait bien compris, hein.
Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable.
Mais moi aussi, je le trouve insupportable.
Qui dit crise ?
Dit monde, dit famine, dit tyrannie.
Qui dit amour ?
Dit les gosses, dit toujours et dit divorce.
Alors on danse.
S'il y avait un problème, tu me le dirais.
Bah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi ?
C'est trop tard, mec.
Partir un jour de Amélie Bonin, c'est le film qui a ouvert le Festival de Cannes de cette année, oui. Louise Véronique.
Oui, 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 oui. Et c'est le premier long métrage de Amélie Bonin.
Oui.
Oui.
Est-ce qu'elle avait fait d'autres films, courts métrages avant?
Justement, parlons de son premier court métrage.
Ah, d'accord.
Oui, parce que son court métrage avait été réalisé en 2023 et il avait reçu le César du meilleur court métrage de fiction.
Ah.
Et ce court-métrage-là portait le même titre, c'est-à-dire « Partir un jour ». C'était un peu la même histoire, avec les mêmes deux acteurs principaux, Juliette Armanet et Bastien Bouillon. Mais en fait, dans le premier court-métrage, c'était que le rôle était inversé. C'était l'homme qui revenait dans sa ville natale et qui retombait en amour avec son amour de jeunesse. Et la réalisatrice a décidé de féminiser le récit pour son long métrage. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. C'est Cécile, donc interprétée par Juliette Armanet, qui, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, retourne dans son village natal parce que son père est malade, et c'est une chef. Donc, son désir, c'est d'ouvrir son propre restaurant gastronomique. Et là, évidemment, comme dans tout bon film romantique, elle va retrouver son amour de jeunesse.
Elle va croiser par hasard.
Ah oui, elle va le croiser par hasard.
C'est arrangé avec la fille des vues.
Disons que le village est petit, n'est-ce pas?
Bastien Bouillon, hein, c'est lui,
oui,
qui joue l'amoureux de jeunesse.
Oui, 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 qui interprète Raphaël. Et là, évidemment, il y a les du cœur, comme dans tout film romantique. Est-ce qu'elle est avec son conjoint? Mais bon, il y a quand même une pulsion amoureuse envers lui.
Oui, parce qu'elle a une relation qui existe depuis une dizaine d'années.
Oui,
là.
Oui, en effet. Oui, oui, oui. Alors, il y a tout ça, mais il y a aussi la relation avec son père qui est difficile. Il y a aussi le fait qu'elle veut ouvrir son restaurant. Il y a le fait qu'elle a des certitudes quand même par rapport à son couple, mais qui commence à vaciller, à se poser des questions. Il y a aussi la maternité qui entre en jeu là-dedans. Donc, son refus de la maternité, mais elle se retrouve enceinte tout à coup. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas nécessairement aboutis, je trouve, dans la réalisation. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Ça reste un petit peu, des fois, en plan. Par contre...
Ça chante.
Ça chante, c'est ce que j'allais dire, Hélène. Ça chante. C'est un film. Et en fait, la réalisatrice insiste là-dessus, ce n'est pas une comédie musicale,
non.
C'est un film musical.
Oui, c'est ce que je me disais, parce que ce n'est pas tout à fait la définition d'une comédie musicale.
Non,
là,
non,
parce
non.
que la musique, le chant prend de l'espace, de la place, mais pas...
pas
complètement.
Complètement.
Du début à la fin.
Et d'ailleurs, c'est... Les personnes qui vont chanter, en fait, les acteurs qui chantent, le font aussi dans des gestes très quotidiens. Hein? Éplucher les patates, faire la vaisselle, tout à coup, puis ils se mettent à chanter. Les chansons qu'elle a choisies sont très, très accrocheuses.
C'est des
super
succès
populaires, parce qu'elle disait que... Elle dit que, dans le fond, notre vie est accompagnée de chansons.
C'est vrai.
Ce sont des souvenirs. Alors, évidemment, c'est une recette gagnante pour toutes les personnes qui connaissent ces chansons. Par exemple, les chansons, il y a « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion, « Sa sensualité » d'Axel Red, « Parole, parole » de Dalida, « Donne-moi ton cœur », on a entendu Stromae aussi. Alors, ce sont des chansons qui...
Alors, on danse.
Alors, on danse.
Mais aussi, le plaisir de voir ce film, c'est de découvrir ces chansons-là. Alors, on ne donnera pas tous les titres, malgré que là, on en a donné quand même quelques-uns.
Mais évidemment, les acteurs et les actrices qui chantent, c'est Juliette Armanet qui a la voix la plus juste.
Mais c'est une chanteuse,
c'est
d'abord
une chanteuse.
Et avant tout, mais qui se débrouille bien
en
jeu.
Qui se débrouille très bien.
On y croit,
elle est crédible. D'ailleurs, la réalisatrice l'a choisie, non pas parce qu'elle était chanteuse, mais parce qu'elle a vu le charisme qu'elle dégageait.
Oui, belle présence à l'écran.
Oui, oui, oui. Oui. Pour ceux qui s'en souviennent, Juliette Armanet, c'est elle qui chantait à la cérémonie des Jeux olympiques de l'an dernier à Paris et qui chantait Imagine sur une péniche avec un piano en feu.
Imagine de John Lennon,
oui.
Puis elle a aussi une carrière
formidable
avec des chansons chansons qu'on fait souvent jouer ici sur nos ondes.
Mais elle se débrouille très bien dans ce rôle. Elle est crédible, en fait de...
Mais je ne connaissais pas la distribution, à part l'excellente Dominique Leblanc. Dominique Blanc, pardon.
Oui, oui, qui interprète la mère.
Oui, la mère de Cécile.
Qui est toujours un plaisir de la revoir à l'écran.
C'est une actrice de théâtre, mais qu'on a vue aussi au cinéma. Elle a toujours, en tout cas pas toujours, mais souvent des rôles de tragédienne.
Oui. Mais là, elle est. C'est un petit rôle, mais quand même qui est très touchant.
Oui, elle rêve de partir en Italie. Elle fume à la cachette de son mari. Oui. Mais c'est un film charmant.
C'est un film charmant. Mais on lui a reproché que c'était peut-être pas le film qu'il fallait pour ouvrir le Festival de Cannes. C'était pas assez,
profond.
Profond. C'est une comédie populaire. Oui. Mais pour un premier long métrage, elle se débrouille bien. Et je pense que c'est la qualité des surtout des acteurs, l'interprétation. Mm-hmm. Bastien Bouillon aussi est très...
Ils sont tous justes. Peut-être qu'on avait le goût de légèreté aussi en ces temps assez sombres.
En effet.
D'où la décision d'ouvrir avec un film assez léger.
Assez léger, en effet.
On y va avec, je ne sais pas si c'est léger, là, je ne l'ai pas vu celui-là, Cookie à l'infini, en tout cas le titre est rigolo.
Ah, Cookie à l'infini, c'est présenté à la Cinémathèque présentement. C'est très particulier comme film.
Ouais.
C'est un documentaire, mais animé. C'est-à-dire, c'est un mélange de films d'animation et de documentaire. Et c'est très rare qu'on voit ça.
Ouais.
En général, les films d'animation, c'est pour divertir. Les documentaires, c'est pour faire réfléchir. Et là, c'est un peu des deux.
Alors, est-ce que vous avez été diverti et informé en même temps?
Les deux. Mais c'est tellement éclaté. Il faut que je vous parle brièvement de qui sont les deux réalisateurs. Peter et Seth Scriver.
Est-ce que ce sont des frères?
Ce sont des demi-frères. Ah. Des demi-frères. Parce que Seth, il est blanc, il est né à Toronto, mais ils ont le même père. C'est lui qui fait tous les dessins, parce que c'est vraiment fait artisanal, hein, les dessins du film d'animation. Et Peter, son frère, il est né d'une mère crie. Et il vit dans la communauté de Shamattawa, au nord du Manitoba. Et lui, c'est un conteur né. Donc, en fait, le documentaire...
Deux
talents qui se complètent. Et le film, ça a pris au moins 9 ans pour tourner ce film.
Ah oui?
Alors, c'est une longue période.
Est-ce que ça paraît?
Bien, ça paraît... Les dessins sont les mêmes, en fait.
Mais c'est un travail abouti.
C'est un travail abouti. Mais qu'est-ce que ça raconte? C'est tellement éclaté, Hélène. C'est tellement particulier. en fait, c'est un documentaire sur la relation entre les deux, et qui se parle au téléphone, et Peter raconte sa vie au Manitoba, dans la communauté. Il faut dire que Peter, il a 9 enfants.
Hein? Ah oui.
Il a une 12aine de chiens. Alors, au téléphone, il est toujours comme interrompu par tout ce qui se passe dans sa maison. Ça bouge énormément.
Sa vie est reposante.
Sa vie est reposante, et c'est vraiment une galerie de personnages. Il y a bien la famille, il y a les voisins, il y a leurs parents, il y a les enfants, c'est les amis d'enfance aussi. Mais parlons du visuel, parce que le visuel...
C'est une conversation téléphonique. Là.
Ben, en fait, on les voit. C'est animé. Hein? Ce sont des personnages animés. Là.
Quel genre de personnages?
Ben, ce sont des personnages qui n'ont pas tous une forme humaine, disons. Et même s'ils ont une forme humaine, la forme humaine est déformée.
Ah.
Par exemple, Cookie, le titre d'ailleurs, c'est la petite fille qui s'appelle Cookie qui a une forme de biscuit. Par exemple, un chien va avoir la forme de Monsieur Peanut. Il va avoir un bouchon, un trophée parlant. Il y a un des fils de Pete qui est une bouteille de sauce. Vous voyez, c'est comme...
Est-ce que c'est pour plaire aux enfants?
Ça pourrait être... Juste le visuel pourrait nous divertir. Mais comme c'est un long métrage, il faut qu'il y ait du contenu.
Ouais.
Et le contenu, c'est la réalité de la communauté autochtone. C'est beaucoup d'anecdotes qui sont très drôles. C'est un humour aussi très, des fois, absurde, très décalé. Mais ce qu'ils nous racontent aussi, c'est aussi leur passé à Toronto dans les années 80. Donc, on parle de la complexité du lien entre les deux demi-frères qui ont vécu des vies différentes. Mais c'est la communauté très, très, très isolée de cette communauté au Manitoba et qui raconte un peu les valeurs de cette communauté-là. les rêves, l'importance des rêves, de la spiritualité.
C'est ce qui est mis de l'avant.
C'est ce qui est mis de l'avant dans les anecdotes. Mais c'est tellement décousu, mais c'est voulu ainsi. Parce qu'on commence à raconter une histoire et à la regarder. Tout à coup, pouf, il y a une interruption. On y revient plus tard.
Conversation à bâton rompu.
Exactement.
Mais volontaire.
Volontaire parce que c'est le quotidien de cette famille aussi. En fait, ce film-là brise la frontière entre le documentaire et l'animation.
Et c'est il le fait bien.
Il le fait bien. C'est tellement particulier. Mais en même temps, ça montre aussi une réalité douloureuse comme le racisme systémique qu'ils vivent hein, aussi. Alors, c'est aussi le contraste entre les voix, parce que les enfants dans ce film, même s'ils ont des différentes formes, mm-hmm. c'est leur voix qu'on entend.
Donc, est-ce que c'est un film en anglais?
Oui, avec sous-titres français.
OK.
Ouais. Et les voix sont très monocordes, les conversations sont très terre à terre, et ça fait contraste avec le visuel qui est complètement coloré, ouais. inventé. C'est une sorte d'ovni.
Original,
une sorte d'ovni, je dirais.
Oui, mais c'est dommage, c'est présenté seulement qu'à la Cinémathèque.
Oui, et pas pour longtemps. Donc, peut-être que ça va être présenté plus tard, là, plus ailleurs, mais pour l'instant. Mais je voulais que vous en parliez parce que c'est un film canadien et c'est une sorte de film qui est très hors de l'ordinaire.
Absolument. À vous entendre, là, ça a l'air vraiment particulier, singulier, cookie à l'infini.
Oui.
Et c'est par Seth et Peter Scriver qui sont des demi-frères, un qui vit à Toronto, l'autre au Manitoba.
C'est ça.
Maintenant, on finit avec un film de Julie Dalpy, qui est une actrice que j'aime beaucoup aussi, qui a réalisé quelques films.
Oui.
Et son plus récent s'intitule « Les barbares ».
Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein? Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé.
C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. Hein. J'ai voté pour qu'on les accueille.
Hervé Rioux, adopté à l'unanimité.
Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés.
Excusez-moi, il faut que je vous parle.
C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, ben il n'y en a plus.
En fait, ce sont des Syriens.
Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
Non, non, de Syrie.
T'as trois femmes, le gars?
Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille.
J'ai aucun problème, hein. Arabe,
c'est pas une insulte, hein.
Non, ça vous filmez pas, hein. Non.
Le racisme, c'est les gens qui n'aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Marcy.
Le racisme, ça vient de la peur.
Bonjour.
La peur qu'on leur prenne leur femme.
Pourquoi tu fais coucou, toi?
Quoi?
Welcome here.
La peur qu'on leur prenne leur travail.
Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici.
Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon, moi je mange que ça.
Ça...
À vous?
Vous la voulez?
1 euro.
Quoi?
1 euro, putain, 1 euro.
J'en ai marre d'être amie avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres.
Si t'étais Mère Teresa, ben tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là.
Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte.
Faut créer une dynamique autour des faillades.
C'est-à-dire? Je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi.
Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne.
Mais t'es alsacien.
Je parle pas le Macron, moi. Alors, Les barbares, qu'est-ce que c'est?
C'est un film tout à fait d'actualité, je dirais, avec tout ce qu'on vit, avec la migration des réfugiés. C'est le 8e long-métrage de Julie Dalpy. Eh oui, mm-hmm. Julie Dalpy, qu'on a vu dans de nombreux films aussi en tant qu'actrice. C'est comme on l'a vu dans la bande-annonce, comme on l'a entendu, c'est l'histoire d'une famille de réfugiés, mais pas celle qu'on attend dans cette petite communauté de Pimpon, un petit village tissé serré.
On attend des Ukrainiens.
On attend des Ukrainiens et tout à coup, il n'y en a plus d'Ukrainiens. Alors, c'est vraiment sur une base très de comédie et d'un sujet très, très sérieux quand même. Donc, c'est comment une communauté va réagir face à une famille qui vient d'ailleurs, donc avec des valeurs différentes, avec des coutumes différentes. Et donc, ce sont des Syriens. Et là, c'est là qu'on voit dans cette...
Parce que les Ukrainiens sont où, finalement?
Parce que de nombreuses familles en ont adopté dans d'autres villes, par exemple.
Mais pas à Pimpon. Il n'y a plus de place. Ils sont plus disponibles pour aller vivre à Pimpon.
C'est ça. Alors, c'est quand même la chance de cette famille syrienne qui a vécu dans un camp de réfugiés qui arrive. Et c'est le choc des cultures, en fait. Parce que, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, il y a des préjugés, il y a de la peur, ouais. Il y a donc autant des hostilités que de la bienveillance. Alors, c'est un peu la réaction, des fois contradictoire, dans cet accueil. Et ce sont les femmes qui font bouger les choses dans ce film. Alors, il y a Julie Delpy qui interprète, qui a aussi le rôle principal et qui a cette...
En plus de réaliser.
Oui, en plus de réaliser, qui est cette enseignante et qui a cette bienveillance auprès de cette famille.
Une bienveillance vraiment bienveillante?
Bienveillante,
parce que des fois, trop, c'est comme pas assez.
C'est exactement, c'est un peu trop exagéré. Donc, ouais. Il y a aussi dans les extrêmes...
Mais c'est son personnage qui est comme
personnage,
ça.
C'est son personnage, oui, qui veut tout faire et qui même, au-delà de ce qui est légal.
Oh!
Et puis, de l'autre côté, il y a des personnes qui sont très suspicieuses, fermées. Donc, par exemple, le personnage interprété par Laurent Lafitte, qui est tout à fait...
Délicieux,
mais d'une manière exécrable.
Oui. Il joue bien son personnage.
Il joue bien le personnage du plombier qui ne veut rien savoir et qui veut défendre les valeurs bretonnes.
Est-ce que c'est caricatural?
C'est caricatural, mais en même temps... C'est pas trop loin de la vérité non plus. Hein? Il y a aussi le maire qu'on voit qui est tout à fait tellement drôle, craquant, parce qu'il est pris aussi, il ne sait plus sur quel pied danser. Et il veut faire le bon maire bienveillant, mais il est pris dans toutes sortes de situations où là, il y a...
Entre l'arbre et l'écorce.
Dans la controverse. Il y a aussi Sandrine Kimberlin aussi. Kimberlin,
ouais.
Qui joue la meilleure amie de la professeure, de Julie Delpy.
Julie Delpy.
Mais c'est aussi une manipulation des hommes. Comment les
Kimberlin, je ne sais pas si on l'a dit correctement.
Kimberlin. Oui. Très bonne actrice aussi. Et on voit aussi la manipulation dans le couple qui vont influencer, par exemple, les femmes de manière négative. Les préjugés qui sont transmis aux enfants aussi.
Alors, qui sont les barbares?
On peut se poser la question, ouais. Qui sont les barbares? Hein? Les barbares, évidemment, c'est les préjugés, c'est la famille, parce qu'on la traite comme ça, on la voit comme ça.
Ouais.
Et c'est aussi la difficulté pour cette famille-là, entre autres le père, de s'adapter à cette nouvelle réalité, de perdre son statut social qu'il avait auparavant. Alors, on est aussi dans cette vie-là de famille qui est éprouvée. Hein? Mais Julie Delpy a voulu faire un film positif, optimiste. Elle a fait énormément de recherches, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'entrevues de personnes réfugiées dans différentes communautés aussi, parce qu'elle se base aussi sur des faits. C'est un film qui est, comme je vous disais, d'actualité, mais qui fait réfléchir parce que, en fait, cette communauté-là, oui, elle est en France, mais il y a partout dans le monde des communautés où on doit accueillir des gens de différentes nations.
Est-ce que c'est un film qui se démarque par rapport aux autres films qui traitent du même sujet?
Bien, c'est sur une base comique, hein? Donc c'est une comédie avec
Comédie dramatique,
ouais. Oui. Mais on dirait que les hommes sont des leviers comiques dans ce film.
Ah.
Les femmes font bouger les choses. Et il y a aussi...
Les hommes sont des petits comiques.
Mais ce n'est pas non plus un film qui est, tranchant, bon et méchant.
Ouais.
Il y a une évolution aussi dans l'attitude des personnages. Et c'est ça qui est quand même positif.
Bon, vous avez aimé?
Oui, j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est de l'actualité. Et c'est sur une base comique, mais ce qui fait réfléchir aussi. Et le talent de Julie Delpy en tant que réalisatrice et...
Comédienne.
Oui.
Elle est toujours naturelle, cette
Toujours naturelle. Quel beau parcours.
Les Barbares de Julie Delpy. Et ce film prend l'affiche au Québec le 20 juin.
Oui.
Vendredi.
Vendredi, au Beau Bien.
Et vous, vous quittez l'affiche pour quelque temps. Louise Véronique,
je quitte
l'affiche de Canal M.
Oui, en effet, mais ce sera un plaisir de revenir en septembre.
Avec plaisir. Bon été. Merci beaucoup pour tout, Louise Véronique.
Merci à vous.
Même si ma passe de recreation. Chin, 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 je pousse pour me faire chou, 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 chou. Mais moi, j'ai déjà mon chouchou. Ami en moi.
Théodora et sa chanson « Un meilleur nous ».
Oui, quel beau titre, « Un meilleur nous ». Alors, on se souhaite tout ça, « Un meilleur nous ». Et Théodora, qui chante ce soir dans le cadre des Franco, elle sera à la SAT, la SAT qui est la Société des arts technologiques. Là-dessus, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous ne souffrirez pas de la chaleur. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Ici Hélène Denis, on se retrouve demain à 9h30. Merci Mathieu Tessier.